Ils sont malades.
C'est le seul diagnostic.
Vraiment malades.
Donc j'ai connu le ver solitaire, mais aussi le ver solidaire.
Chaque lundi, ils se regroupent dans leur quartier général à Roubaix. Et ils enregistrent une émission de radio pour propager leurs bonnes paroles et venir en aide aux gens qui sont comme eux. Dans le milieu, on les appelle...
Les tatouages.
Vous allez maintenant entendre leur dernière émission.
On avait dit sérieux, les filles,
là. C'est posant des questions.
Avec nous, ça dirait.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes à l'émission 292 déjà, des Entonnoirs. Et nous avons le plaisir de convier une nouvelle fois l'hôpital de jour de Valenciennes.
Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, Mehdi, Sophie. Donc ensuite, nous avons aussi le plaisir d'avoir invité Sylvie, originaire de notre région, qui est venue aujourd'hui pour nous parler de la radio de Morlaix. Donc voilà, en grande partie. Ensuite, Gilbert, à vous.
Ensuite, nous allons passer à la rubrique musique de Johan.
Alors ensuite, viendra la parenthèse de Roger Lucien. Roger Lucien, c'est à toi.
Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu politique, géostratégie et géopolitique.
Ensuite, viendra la fourmi des spectacles de l'habituelle fourmi de Nathalie.
Bah, cette semaine, je vous parlerai musique, concert.
Merci.
Ensuite, nous allons passer au poème de Bruno, Roland Lagoutte, dangereux.
Oui, non, je vais préciser, c'est un poème de Roland Lagoutte, qui est un poète parisien, qui m'a envoyé ses jolis vers, de lui vers. Et autrement, je vais lire un poème qui s'appelle Dangereux Rancard, sur Roubaix.
Donc ensuite, la pause musicale de Funky Family par Mehdi, donc du rap aujourd'hui, pour changer un peu de rap.
Funky Family, un groupe des années 80, fin 90-2000.
Très bien, merci.
Ensuite, pause médicale, Patrick, les Rolling Stones.
Oui, ensuite, nous allons parler un film raconté par Sophie, de Brian De Palma.
Oui, c'est Passion.
Très bien.
Ça va être mon instant critique.
Ah, bien, merci. Alors, Gilbert.
Ensuite, chronique série télé, Mathieu.
Sons of Anarchy.
Ensuite, une chronique de Johan, La criminalité. Réseau sur enfant.
Donc ensuite, l'avenir du futur, le retour de Brahim. Ensuite, la pause musicale de Margot sur Mélanie Cole, que je ne connais pas, mais peut-être que Margot nous en dira plus.
Et pour terminer, pause musicale de Fred Tchaïkovski.
Et pour finir, nous allons finir à boucler l'émission avec la météo de Malika. Merci.
Les entonnoirs.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir aux entonnoirs Sylvie, qui est infirmière spécialisée en psychiatrie et elle fait de l'art-thérapie aussi, et à Morlaix, en Bretagne. Et c'est là où on va la rejoindre dans quelques semaines.
Bonjour, Sylvie Salin, donc je suis infirmière aux ateliers thérapeutiques artistiques du centre hospitalier de Morlaix, des pays de Morlaix on dit d'ailleurs. Et donc c'est une activité qui existe depuis 1998, qui comporte 4 ateliers, l'atelier théâtre, celui de sculpture, de peinture et de radio. Donc il y a une radio qui s'est montée à Morlaix qui s'appelle Micro Standard, qui existe depuis 2009 et qui a pris le relais de l'atelier Conte, qui s'est arrêté à ce moment-là.
Eh bien, écoutez, je pense que nous, on ira là-bas pour découvrir un peu cet atelier et créer un échange.
Oui, donc c'est ça, voilà. Donc, on organise un colloque sur l'art-thérapie, le lien social, le 17 mai 2012. Et on a eu l'idée de contacter les Entonnoirs, qui est donc la première radio psy de France, je pense. Hein.
Absolument.
Pour pouvoir échanger, partager notre pratique, sachant que l'atelier micro-standard de Morlaix ne fonctionne pas sur le même mode que les Entonnoirs, qui sont une émission
Hebdomadaire.
Voilà, hebdomadaire, peut-être presque pas en direct, mais presque.
Presque en direct.
Micro Standard fonctionne sur un montage d'émissions avec une animatrice journaliste aussi, mais qui se fabrique sur un trimestre et qui se diffuse donc une fois par trimestre actuellement. Hein. On espère en avoir un petit peu plus après, mais qui se diffuse une fois par trimestre sur Radio Nord-Bretagne de Morlaix.
Voilà, c'est là l'intérêt d'échanger des savoirs, et des pratiques.
Voilà, on est très contents de vous accueillir bientôt et de vous faire découvrir notre jolie région.
Eh bien, merci.
Et puis, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui.
Ouais. On passe à la pause musicale, monsieur Ben.
Allez, go, hein? c'est parti.
C'est parti.
Go, allez.
La pause musicale.
Bomb track.
Merci pour ce joli morceau, Yuan.
J'ai beaucoup apprécié. C'est tonique, c'est rock, c'est jeune.
Ça faisait penser à Limp Bizkit, d'ailleurs. Un peu à Limp Bizkit. Alors, maintenant, place à la parenthèse de Roger Lucien.
La parenthèse du jour, avec Roger Lucien.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une relation qui avait lieu jadis entre deux nations, notamment dans le domaine de l'armement. Il s'agit de l'État d'Israël et l'Afrique du Sud. Pour vous resituer, dans le contexte de l'époque, je vais vous lire l'extrait d'une revue mensuelle d'information intitulée Arabie. C'est bien entendu une situation nouvelle après le maintien pendant trois décennies d'une relation presque exclusive avec Israël, notamment dans le domaine de l'armement. C'est grâce à l'État hébreu que l'Afrique du Sud pouvait avoir accès aux technologies militaires occidentales qu'on lui refusait, en échange de quoi Israël pouvait utiliser l'Afrique du Sud comme base d'opérations régionales et, comme cela fut prouvé par la suite, tester ses armements non conventionnels, depuis les bombes à neutrons jusqu'à l'armement nucléaire. Dénoncée par la communauté internationale, cette relation arrangeait cependant de nombreuses puissances pour lesquelles la lutte contre l'influence soviétique en Afrique et dans l'océan Indien primait sur le combat contre un système ségrégationniste dont personne en Occident ne voulait réellement le renversement, de peur que les matières premières de la région ne passent à l'Est. Donc, comme vous le savez, il y a environ 18 ans, 20 ans, l'Afrique du Sud était soumise à un embargo à cause de l'apartheid. Donc, le pays vivait en quelque sorte en autarcie. Et compte tenu de sa position géostratégique et l'abondance de ses matières premières, durant la guerre froide, le pays ne pouvait qu'aiguiser les appétits des grandes puissances. Donc, il a fallu... ce qui a créé ce genre de relation entre Israël et l'Afrique du Sud, une relation qui était condamnée par la communauté internationale, mais qui, malgré tout, s'est quand même longtemps entretenue. Et à la fin de l'apartheid, c'est-à-dire durant la période de transition entre l'ancien régime et le nouveau régime, le pays a solennellement renoncé à son arsenal nucléaire. Et c'est une décision que je salue. Et je souhaite que, dans ce domaine nucléaire, que toutes les puissances qui ont un arsenal nucléaire décident de le démanteler à l'image de ce qui a été fait en Afrique du Sud. Voilà.
Oui, par rapport aux relations par rapport à l'Afrique du Sud, d'abord, merci de rappeler que Israël et l'Afrique du Sud étaient deux États de l'apartheid et qu'il en existe un qui est Israël. Bah oui, mais malheureusement, c'est le cas. Et par l'Afrique du Sud a pu être, l'apartheid a pu être démantelé en Afrique du Sud, notamment après la chute de l'URSS et donc la fin du brejnevisme de l'empire soviétique. Ça a pu permettre le dégel entre deux blocs et automatiquement une démocratisation de ce pays. Voilà, qu'on salue beaucoup parce que voilà, même si ça a ses limites, mais l'histoire fait des avancées, des reculs. Il y a une bonne avancée quand même. Voilà quoi. Ah bah l'apartheid abat toutes les apartheid. Et merci Monsieur Mandela qui reste une figure quand même emblématique. Et par rapport à Israël, aujourd'hui, on se figure que Israël est soutenu. Il y a très grand froid entre Netanyahou et Obama. Je crois que les Américains ne soutiennent pas trop Obama dans les faits par rapport à sa politique de colonisation des territoires. Surtout que dans ce gouvernement de Netanyahou, il y avait un extrémiste Lieberman qui a été évincé pour fraude, je sais plus trop quoi, et Lieberman s'arrangeait pour s'allier avec les nazis européens. ce qui n'a pas du tout plu à tous les juifs. Ça se dit pas, mais ça se sait. Bon, il y a une alliance de fait entre les fachos européens et les fachos israéliens. Les ancêtres de la Shoah par rapport à ça se rapprochent des Arabes. Bah, et automatiquement, ils sont écœurés et il y a un réchauffement des rapports entre les Arabes et les Juifs et les Israéliens. Et c'est de très bon augure. Et je crois que on peut être très optimiste par rapport dans cette région.
En fait, je voulais rajouter que bon, si pardonnez le mot que je vais utiliser. Si le bordel a perduré en Afrique du Sud, c'est-à-dire l'apartheid, pendant longtemps, c'est parce que quand même le pays était quand même, comme je l'ai souligné tout à l'heure, occupe une position géostratégique. De très nombreux navires contournent le continent africain en passant par cette région qu'est l'Afrique du Sud. Et en cas d'avarie, la plupart des navires qui contournent le continent font escale en Afrique du Sud, parce qu'il y a une cale sèche, une importante cale sèche, je crois, au Cap, et peut-être même dans d'autres ports sud-africains, il y a une importante cale sèche, et donc les navires à bord, du moins, viennent subir des réparations dans cette cale sèche située à l'extrémité sud du continent. Et le pays est plus ou moins situé à mi-chemin entre l'Europe et l'Asie, quand on contourne le continent. Et vous avez de l'autre côté aussi à gauche les Amériques. Et il arrive que des bateaux longent les côtes africaines. Et en voulant aller vers l'Asie, des bateaux américains, bien entendu, font escale dans ce pays parce qu'ils ont des facilités de mouillage. Donc l'OTAN même a des facilités de mouillage dans le pays. Et pendant la guerre froide, tout a été fait pour que les Russes ne s'empare pas n'occupe pas militairement le terrain. Voilà, donc voilà pourquoi les choses ont perduré. Et je salue, comme je l'ai dit tout à l'heure, je rappelle au passage encore l'arrêt, le renoncement solennel à l'arsenal nucléaire militaire de l'Afrique du Sud. Exemple à suivre, selon moi, pour d'autres grandes nations.
Mais c'est pas un pays neutre aussi. À la base, c'était pas un pays neutre. Est-ce que, vas-y.
Ben en fait, c'était un pays pro-occidental durant l'apartheid. Aujourd'hui, c'est un pays qui a des relations tous azimuts, parce que le nouveau régime a des relations aussi bien avec des ex-pays de l'Est qu'avec le monde occidental.
Très bien. Une réaction ? Non ? Bon, on va passer à la suite. Donc, Gilbert.
Nous allons passer maintenant de la fourmi des spectacles de Nathalie.
Concert. Théâtre. Ouf, détente.
Explore.
Musique.
Spectacle.
Théâtre.
Humour.
Comédie.
Animation.
Loisirs.
Divertissement.
Divertissement.
Spectacle.
Humour.
Comédie. Loisirs. La fourmi des spectacles.
Chers amis des entonnoirs, bien bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de DJ et de musique, et en particulier le reggae. Voilà, donc pour commencer, je vais vous parler du DJ Masturba Funk, une ambiance survoltée, de l'énergie à gogo et surtout un pur plaisir musical dans un esprit festif. Vendredi et samedi, sélection musicale des années 60-70, soul, funk et R&B. Du 22 au 23 février 2013, et c'est au Côte Bar, 34 rue de la Baignerie à Lille. L'entrée est gratuite. Et puis, je vais vous parler aussi de reggae, un concert reggae. Donc, il s'appelle Aedo, tente de proposer un son original de par ses influences musicales. Les compositions dévoilent un univers roots autour d'un reggae aérien et d'une voix soul. Donc rendez-vous à ne pas manquer ce 22 février 2013 au Comédia Rue Solferino à Lille. Le prix est libre. Bye bye, à la semaine prochaine.
Vive le reggae.
Merci.
Vive le reggae pour ceux qui aiment. Gilbert, à toi.
Alors maintenant nous allons passer le poème de Bruno, Roulant la goutte dangereux.
D'abord
une pause. Je vois qu'il y a une pause musicale.
Ouais, on a d'abord la pause musicale.
Oui.
La pause musicale, bon bah c'est ton tour, Mehdi, donc sur la FF Funky Family.
Family, c'est la musique la nuit.
Très bien, c'est parti, go.
La nuit. matin succède au soir. Moi je tente d'y voir entre rêve et réalité. C'est stressant, méga prêt à tout brûler. Représente, après-midi ensoleillé. Je dors un stylo sous l'oreiller. FF attaque et ton dragon ne s'est pas réveillé. Lyrics abstrait, c'est un effet de mon insomnie. SND, c'est une histoire d'insomnie.
J'en ai passé des nuits à me faire chier comme jamais. Seul ou entouré de tous durant toutes ces années. Connu ce mal à m'endormir comme si j'allais passer devant le juge. J'ai besoin de traîner dehors même sous le déluge. Ces soirées qui durent jusqu'alors. Va parler de tout, de nous, du monde. Jusqu'à ce que les larmes nous montent. Ces moments de joie, ces pleurs de rire. Ce sentiment de bien-être qui n'enlève rien à notre mal de vivre.
Dans les moments les plus calmes. La nuit on stresse, dès qu'il y a moyen on se casse. Faire des virées en caisse, observer la vie est pliable. Pour le plaisir d'ivresse, on voit vieux et jeunes. Et dans leurs yeux la même tristesse. On voit toutes sortes de gens, du style inconnu et pote. Snob et cloche, pute et cop. La nuit dans la rue, certains diront que c'est nul. Mais y'a qu'à penser à ce qui mate la lune depuis leur cellule.
Les yeux injectés de sang, je sais même plus où la caisse nous mène. La nuit c'est malsain, mais je me sens si bien en son sein. La nuit c'est crimes et larcènes, flic, max et catènes. Zonard des boss, fileur du cœur de gratin. Dur de nier, ce à quoi nous sommes liés. L'obscurité nous fait gamberger, même prier. De plier, piner, faire des billets. Et pour que ça zingue, faut pas oublier.
La nuit c'est plaisir, c'est risque. Entre soirée, délire et sirène de flic. Chaque moment vécu reste unique. Faites de choses simples, comme se retrouver dans une caisse à 5. À déguster de la zip et à se prendre pour les parrains de la ville. Ou à rôder pour serrer quelques filles. À échanger des regards avec les civils. C'est ça la nuit, vaut mieux être malin et habile. J'ai croisé des fous et des folles. Des jeunes qui se gâchent dans la coque et l'alcool. Des mecs qui viennent sortir de tôle. Des SDF qui n'ont pour matelas que le sol. La nuit on rigole mais nos visions ne sont pas drôles. Des accidents graves, des embrouilles, certains frôlent la mort. Tout ça dans six putains de décor. On doit aimer cette putain de vie hardcore. Quand on en demande encore et encore.
Des gars cherchent une place assise dans ce bar. Ramène les comptes jusqu'à 10 et 11 bars. En bonne compagnie, y'a un son de barge dans la 205 rouge. Rouge monte les basses, que les enseignes bougent. Full hot night, allons-y, all right. Avant de dire goodbye, on est ready to fight. La pénombre encourage nos marginalités. Est-ce que nos raps font monter le taux de criminalité?
Dès que le soleil se couche, on se foutait dans les règles. On est raide et toujours contre ce qui tiennent les rênes. Quand les étoiles brillent, une autre ambiance règne. C'est un rêve ou réel, je sais pas, mais c'est ce qu'on aime. C'est le bon moment pour extérioriser. Transformer en pierre un cœur brisé. C'est le bon moment pour voler, picoler ou baiser. La nuit, on préfère la maîtriser que la mépriser.
On aime sans la caille, avec ou sans grenaille. On aime les soirées in the night, sous gonaille. On laisse une odeur de canaille, de pétan ou ouais, canaille. On se fout du code pénal, la nuit on nique de nia. On évacue stress, pression et déception. À l'air libre, j'ai tout, faut dire que je suis sous tension. Demande au ref, on s'en corrige en 3 et shoot star. Qui est le champion, toute catégorie des couches d'art.
On aime vivre hors du temps, se dire qu'on sort durant 6h du mat, ça fume les derniers joints. Grave nos noms sur un banc, rien de bien palpitant. Putain, on attend quoi alors qu'on sait qu'il se passera plus rien. La vie suit son train, le jour reprend ses droits. Le monde réel retrouve ses règles et ses lois. Pour la suite de l'épisode, rendez-vous des soirs. Vu que l'aurore a pris le dessus sur ce ciel noir.
Maintenant, un poème de Bruno.
Oui, donc, chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. J'ai deux poèmes, voilà, pour une fois. Un qui n'est pas de moi, que je commence à lire. Il est de Roland Lagoutte, qui est un poète parisien, qui a eu la gentillesse de m'envoyer un poème par rapport à la Saint-Valentin. Et il est tellement beau, il est court, il est beau, que je lui ai envoyé un court mot en disant « Courte poésie, mais grande poésie ». Ce qui n'est pas compatible. Donc, le poème n'a pas de titre, ouais, je vais le lire. Doucement bercé de tes mots insensés, Tu ravis mon âme de ton sein effleuré. De ces baisers factices, je retiens la caresse, dans ce même élan de folie et de sagesse. Mon cœur s'ouvre sur tes lèvres rosées, attendant l'aube fermentée saturée, de ton ventre aux émois troublés, j'invente alors la vie de nos corps sublimés. C'est quand je vois ça, moi je fais des bons, c'est bien, tout va bien. Mais on est bien, c'est un bon calmant. Donc je préconise ça comme neuroneuroleptique. Voilà.
Mais Bruno.
J'ai le droit, Blandine, Bruno. Des mots comme neuroleptique, c'est pas mal. Hein.
Bruno, voilà. j'ai peut-être posé une colle, mais est-ce que c'est des rimes plates, embrassées, suivies, embrassées, c'est des rimes comme...
Non, j'aime pas la façon dont tu dis colle, parce que quand tu dis une femme, je ne colle pas. Voilà.
Voilà.
Mais autrement, c'est quoi ta colle?
Bah, c'est rimes embrassées, plates ou suivies. Parce que ça veut qu'il y a des rimes, alors forcément.
Écoutez, monsieur, je suis poète français, monsieur. commencez pas, monsieur. Pas trop d'érotisme dans la poésie, monsieur, parce que pour l'instant.
Ça déborde.
Oui, bon, je vais lire comme mon deuxième poème, par rapport à Roubaix, la situation à Roubaix, il s'appelle, et par rapport à l'actualité, la condition publique, il s'appelle Dangereux Rancard. Alors que par rapport à un plongeon dans la philosophie de la laïcité, à la condition publique de Roubaix, le maire actuel, Pierre Dubois, reste à l'écart, plutôt con et banal, en référence à des bulles blanches papales. Son premier adjoint, Renaud Tardy, prenant ses distances avec lui, est beaucoup plus original, surtout quand il sourit à un média local dans des bulles noires pas mal. Ceci étant de première importance pour le Belzébuth que je suis, qui, en vue de perpétuer un récit juste féministe, le prépare à un dangereux rencard au mystérieux rituel. Lieu de rencontre que j'étudie dans le détail, au Parc Barbieux, au Boldé et ses pas de l'eau vert, au bar resto à l'abri des courants d'air, avec sa Henken qui coûte 3 euros. Où le diable, aux attraits féminins parfaits, exceptionnel en étant ascensionnel, où l'espace est réel dans une passion de feu, descendant dans un enfer qu'il voit humainement lumineux, communieront, rapprochant leur manière, dans ce délicieux message. Roubaix, enfin, n'est plus ce trou perdu. Roubaix est le nu. Qu'on pénètre à fond.
Bravo, Bruno.
Bravo.
Merci, Bruno.
Cinéma, cinéma de Charental, film en film, je vais donner mon existence. Écoutez quoi, cinéma.
Donc ensuite, nous allons enchaîner avec la présentation du film d'un film que Sophie aime beaucoup, de Brian De Palma.
Oui, il s'agit de Passion. C'est un film qui est sorti la semaine dernière. Et avant d'en parler un petit peu plus, je vais d'abord en faire un résumé. Il s'agit d'Isabelle, une assistante de publicité qui admire son chef, Christine. Et celle-ci est très mauvaise. Elle la manipule, elle lui pique ses idées, elle l'humilie en public, tout en lui faisant croire qu'elle l'adore. Donc c'est très étrange comme relation et on peut se demander, on peut se dire en fait qu'il y a des sentiments ambivalents dans ce film. Il y a tout un jeu de séduction, mais qui en même temps de la manipulation, de la perversité. Ça va jusqu'à l'assassinat. Et ensuite, il y a aussi beaucoup d'enjeux qui sont révélés dans ce film. Ça parle beaucoup du monde du travail, des grandes entreprises, genre Total, hein, Roger Lucien. Sauf que là, c'est dans le monde de la publicité. Et en fait, il y a tout le pouvoir, il y a plein d'enjeux de pouvoir. On entre dans les méandres de ça. Tout le monde veut avoir une promotion. On se met des bâtons dans les roues et tout et tout. Il y a des rapports de force malsains aussi. Et on peut se, il y a quelques questions qui sont soulevées. On peut se demander jusqu'où peut aller l'ambition. Où est-ce qu'on est prêt à aller pour assouvir ce qu'on veut faire? Et il y a aussi beaucoup de sexualité dans ce film. Et en fait, elle est présentée dedans comme un outil pour arriver à ses fins. Après, j'ai vu quelques références, les liaisons dangereuses de Laclos et Scream, parce que à la fin du film, l'assistante de publicité s'accuse d'un meurtre. Après, elle démontre qu'elle n'est pas l'auteur du meurtre. Et en fait, on s'aperçoit qu'elle l'est. Donc c'est un peu scrogneugneux, c'est un peu alambiqué, donc ça me faisait penser à Scream. Voilà.
Suspense, je bouffe.
Bah, suspense pas trop, vu qu'elle vient de raconter la fin du film quand même.
C'est vrai. Oubliez tout.
Si non, tu... mais c'est comme ça dans Scream. Merci.
Oui,
oui, mais on voit le film pour le style, le talent du réalisateur, pas juste pour la fin.
Et je vais sortir ma connerie, non, bah, ça n'est pas arrivé. S'il est question de Scream, c'est comme un coup d'épée dans l'eau.
Il y a un petit peu de sang. Et puis, pas que dans l'eau. Je n'ai pas très bien compris la
blague. Non, mais Scream, un coup d'épée dans l'eau. Ça, c'est. Bah, oui.
Ah, Scream bah. Ah.
C'est quoi la signalétique?
C'est,
quoi
c'est mignon, c'est un ice cream. Voilà,
la signalétique, c'est quoi? 12 ans, 13, 12 ans, 16 ans?
C'est la blague de Bruno.
Je crois que c'est même pas interdit au moins de 12 ans. Parce que c'est. Il n'y a pas de violence qui est montrée, c'est vraiment de la perversion mentale, oui, psychologique.
Ouais. Mais en fait, ouais. c'est un film avec sur le monde du travail, mais avec une sorte de polar, mais dans un milieu un peu particulier qui est le monde du travail.
Oui, 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 oui. Il y a plein de choses qui sont mélangées. Ouais. C'est très, très intéressant. Allez le voir.
Il y a eu d'autres films qui ont été faits un peu dans ce style-là. Violence des échanges en milieu tempéré, etc. Sur le monde du travail.
Merci pour la référence.
On verra ça plus tard. Donc, Gilbert.
Maintenant, une pause musicale de Patrick, les Rolling Stones.
Oh,
carte noire.
Oui, merci pour ce grand classique, du grand classique du rock. Donc, nous allons, je l'espère, passer à l'avenir du futur, l'avenir, la rubrique désopilante de Brahim, je l'espère. Brahim.
L'avenir du futur. Du futur. Du futur et du futur. Passé, passé, futur, futur. L'avenir du futur. Que pensez-vous des dinosaures préhistoriques avant les ancêtres ou pas? Je vois ça la question. Bruno, tu peux pas parler?
Merci, tu t'adresses à un très vieux, donc, mais je ne suis pas encore dinosaure. Je vais te dire. Je précédent. Non, mais voilà, j'ai le droit. Et devant, l'avenir du futur, je ne comprends pas. C'est l'avenir du futur ou c'est les dinosaures? Non, je ne comprends plus. Je fais encore une différence entre le passé et le futur. Voilà.
C'est dans le futur. Parce qu'il y en a des dinosaures, ils courent, ils voulaient capturer quelqu'un, ils n'y arrivent pas à attraper.
Les dinosaures, ils allaient trop vite.
Les dinosaures, ils vivaient dans la forêt avec le roi Arthur. Le roi Arthur. Il se bagarre. Le dragon, il a soufflé du feu, et ben à la main, à la fin, il s'est brûlé, et le roi Arthur, il a dit capture-le. Pour attraper les dinosaures, ils ont trouvé un œuf de dragon.
Je crois. Non, il faut arrêter quelque chose. Il faut arrêter la flotte. Parce qu'on dit être entre deux eaux, c'est qu'à de le dire, excuse-moi. Mais. Non, mais il faut arrêter. Brian, tu nous fais peur, là.
Ouais, qu'est-ce qu'on va devenir, nous?
Qu'en pensez-vous des dragons de notre temps?
Il y a déjà quelqu'un qui a essayé de faire Jurassic Park, mon vieux. Et il faut cloner quand c'est comme ça. Mais on n'a pas encore trouvé les œufs de dragon.
Ah, si, dans la montagne. Parce que dans la montagne, il y avait des maisons, ils détruisaient les dragons, ils détruisaient le feu. Ils ont soufflé le feu, et après, toutes les maisons sont vite parties.
T'as des chines du dragon, non?
Est-ce qu'en Bretagne, il y a des dragons?
T'es les chines du dragon, toi, non?
Avant le roi Arthur, ouais, il y en avait.
Demande donc à cette chère dame de Morlaix si on est loin de la folie de Brocéliande quand on va chez elle. Et auquel cas, peut-être qu'on va peut-être en trouver un là-bas.
Que pensez-vous de cette Valenciennes, les dragons?
La forêt de Brocéliande n'est pas tout près, hein. Elle est plus proche de Rennes que de Morlaix, hein. Mais on connaît bien les légendes du roi Arthur et toutes ces.
Son épée du
roi.
Moi, je connais de poésie, par réputation, le Lorient, qui est une base trouble. C'est Lorient, c'est qu'à le dire, c'est trouble. Ah oui, Lorient, qu'est-ce que c'est que Lorient? Voilà, exactement. Et deuxièmement, il paraîtrait qu'en Chine, il y a des maternités pour dragons, pour les œufs. Bah oui, non, mais voilà, c'est. Qu'en pensez-vous? Des maternités pour dragons? Les dragons, c'est chinois, je crois, non?
Ok, merci à tous. Alors maintenant, la chronique série télé, je crois, de Mathieu. À toi, Mathieu. Son of Anarchy.
Oui, Sons of Anarchy. Donc, je vais vous commencer par vous lire le synopsis. Donc, afin de protéger leur ville des dealers et des entrepreneurs locaux, les membres d'un club de moto sont prêts à tout. Dans ce contexte critique, Jax Taylor est partagé entre l'amour qui porte à sa confrérie et l'appréhension grandissante qu'il nourrit en voyant l'anarchie et le banditisme qui règnent dans son club. Donc c'est une série plutôt originale qui traite d'un sujet qu'on n'avait pas encore vu, les motos. Donc tout ça va plaire aux motards. Donc je vais vous lire quelques anecdotes au sujet de la série. Donc j'ai fait un petit titre et après je vous lis l'anecdote. Un créateur de prestige. C'est un des scénaristes et producteurs de la série The Shield qui est à l'origine du show, Kurt Sutter. Il le produit et en a écrit le pilote. Clin d'œil. Le gang afro-américain avec lequel Sam Crow négocie régulièrement s'appelle les Wine Niners. Il s'agit en fait du même gang fictif que l'on retrouve dans The Shield. Donc petite référence à sa première série. Sam Crow, qu'est-ce que c'est? En fait, Sam Crow, c'est l'abréviation de Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original. Donc, on peut traduire par les enfants de l'anarchie, le club de moto des enfants de l'anarchie. Ensuite, des acteurs en série. Jax est interprété par l'acteur Charlie Hunnam, déjà vu dans Histoire Gay, Queer as Folk. Autant dire que ce rôle de motard le change. Sa mère est jouée par Cathy Sagal, dont le rôle le plus marquant reste celui de Peggy Bundy dans la sitcom Mariée deux enfants. On l'a également vu dans Lost les disparus et Touche pas à mes filles. Enfin, c'est Drea De Matteo, une soprano, qui interprète l'ex-petite amie de Jax. Un héros presque réel. Le héros de Sons of Anarchy, Jax, est inspiré sur certains aspects de la personnalité d'Edward Winterhalder, comme il s'est présenté dans son premier roman intitulé Out in Bad Standings. Voilà, merci à tous.
Merci.
En parlant de moto, il y a un excellent film qui de ma jeunesse, c'était Easy Rider. Easy Rider, c'était un très grand film. Enfin, voilà, je vous conseille de le voir.
Mais c'est une série télé, hein.
C'est une série télé américaine.
Ça ressemble à une saga un peu ou pas? Une saga un peu comme
Une série.
Une série. Ok, merci. On va passer à la pause musicale de Marco avec Mélanie Cole. Allez, viens. Bienvenue dans le coffre à vinyle.
Oui, bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Donc voilà, je vais vous présenter une chanteuse qui a représenté la Belgique en 1998 avec son titre « Dis-moi oui » à l'Eurovision. Donc là, je vais vous passer un titre de son album. Le titre, c'est « Bang, bang, bang ».
Les entonnoirs, les entonnoirs.
Voilà, maintenant c'est l'heure de ma chronique, donc c'est Johan. Bon, en fait, j'ai rien préparé, mais c'est une chronique que je voulais faire par rapport à un sujet qui est pas simple, moi qui m'a un peu traumatisé là depuis 2-3 semaines. C'est en fait la criminalité en réseau sur enfants. Donc en fait, le 23 octobre 2012, dans la ville d'Amancé, donc dans le Doubs, en France, il y a eu le premier colloque de lutte contre la criminalité en réseau contre les enfants. Et donc en fait, ça fait suite à la disparition le 22 septembre 2012, dans cette région, à Amancé, d'un activiste qui lutte contre les réseaux pédocriminels, qui s'appelle Christian Maillot. Il est appelé Stan, en fait. C'est un pseudo internet. C'est quelqu'un qui en fait a mis plusieurs vidéos sur internet, des vidéos de revendications, des vidéos appelant à se mobiliser, et notamment une vidéo qui s'appelle Les réseaux de l'horreur. En fait, c'est un documentaire qui a été réalisé de façon un peu amateur, donc par cet activiste, donc qui s'appelle Stan Maillot. Donc Maillot, ça s'écrit M-A-I-2-L-A-U-D. Donc qui a disparu le 22 septembre. Donc avant de disparaître le 22 septembre 2012, il avait fait 3-4 ans avant. Donc ce documentaire qui s'appelle Les réseaux de l'horreur. Donc documentaire de 3h30, disponible sur internet. C'est fait un peu avec des bouts de ficelle, hein. C'est vraiment quelque chose de très amateur. Mais la forme n'est pas importante, c'est le fond en fait. Et donc en fait pendant 3h30, donc cet activiste, donc qui a disparu suite à un contrôle le 22 septembre par la gendarmerie. Cet activiste donc a mis au jour une affaire qui s'est passée en 1998 en Belgique. Ça vous dit peut-être quelque chose ? Alors non, c'est juste un an et demi après, mais c'est aussi scandaleux. C'est en fait, peut-être que vous avez déjà entendu parler d'un reportage de Serge Garde qui était sorti donc en 2000 dans L'Humanité, qui s'appelait Le fichier de la honte, suite en fait à la découverte d'un CD-ROM de pédopornographie en fait qui avait été retrouvé en Hollande à Zandvoort. Et donc en fait donc Stan Maillot, qui a disparu suite à ce contrôle de police, donc avait fait ce reportage donc sur le fichier pédophile de Zandvoort. Et en fait l'histoire, c'est donc pendant 3h30 ce documentaire nous explique en fait, bon, c'est pas un seul CD-ROM en fait, que en fait ça représente, il a en fait mis au jour un réseau à l'échelle européenne qui compterait 100 000 enfants en fait. Et donc pendant 3h30, il explique vraiment dans les détails ce qui est arrivé à ce monsieur donc qui a mis à jour ce réseau, qui s'appelle Marcel Vervlozen, donc qui est en fait un détective privé qui faisait partie d'une association ASBL, donc en Belgique une association loi 1901. Donc il était détective privé et en fait il faisait la chasse aux maltraitances contre les enfants. Et donc En 20 ans, il en arrivait à faire cette enquête-là. Donc, il a démantelé en fait un réseau. Et donc, il a récupéré 100 000 photos avec des vidéos, des vidéos de viol, de torture et des vidéos des qu'ils appellent les snuff movies, c'est-à-dire où on voit des enfants se faire tuer. Et donc, en fait, dans ce documentaire toujours, donc on voit en fait la descente aux enfers de ce militant également, cet activiste également, qui s'est retrouvé en prison, qui a failli être assassiné, qu'on a discrédité en faisant des fausses plaintes. Il a été, donc quand il a découvert le réseau, en fait le réseau, ce qu'il avance, c'est que il y a beaucoup de notables, d'hommes politiques, enfin de familles royales, tout ça. Enfin, c'est pas des gens de la basse classe. J'ai envie de dire, c'est des gens de l'élite en fait. Et en fait, il a été détruit, il s'est retrouvé en prison, et donc c'est assez choquant. Donc je vais pas trop rentrer dans le détail. Je demande juste, peut-être d'aller voir sur internet donc ce documentaire de Stan Maillot et de Jeannette Siman, qui s'appelle Les réseaux de l'horreur. Et donc en fait, donc ça c'est l'histoire qui a été développée dans le documentaire fait par Stan Maillot, donc qui est un activiste également, qui a eu des problèmes avec la justice en 2007 parce qu'il faisait partie d'une association qui s'appelait Politique de Vie, qui s'occupait des enfants qui étaient traumatisés par les viols, tout ça. Et en fait, il s'est fait connaître, et on avait parlé de lui dans Voici, un peu dans les médias, parce qu'en fait, il avait, selon la police, il avait soustrait un enfant à la garde de son père, alors que lui, il explique en fait qu'il avait qu'il a découvert une imposture judiciaire, et qu'en fait, la famille dont il s'occupait dans cette association, et en fait, ce qui se passait, c'est que le père abuseur a gardé la garde de l'enfant, et donc en fait, il a permis à la grand-mère de cet enfant, à la mère de cet enfant et à cet enfant de fuir sa famille. Donc il a été condamné pour ça. Donc depuis 2009, il vivait en fait en clandestinité, en lançant des appels à la mobilisation sur Internet. Et donc le 22 septembre dernier, il a été lors d'un contrôle de police. Donc comme il vivait dans la clandestinité, il était un peu poursuivi par la police. Et donc en fait, il est en train de réaliser un deuxième documentaire, donc sur un réseau de notables dans la région d'Amancé, avec des ramifications un peu partout en France, en Belgique, tout ça. Et donc il a disparu, et donc ça c'était le 22 septembre, et suite à cela, il y a eu une réunion de ses soutiens sur Internet, donc le 23 octobre, le premier colloque européen de lutte contre la pédocriminalité de réseau. Et c'est voilà, je vous ai dit un peu ce qui s'est passé, je ne vais pas rentrer trop en détail, mais c'est quelque chose pour moi qui est dur à supporter de voir qu'on en arrive à ce point-là, surtout de voir en fait les protections des dirigeants en fait. Par exemple, dans l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, en 2000, quand Serge Garde sort son papier dans l'Humanité, tout le monde fait semblant de découvrir qu'il y avait un CD-ROM avec 8000 photos, alors qu'en fait, il y en avait 20. Mais le truc, c'est que tout le monde fait semblant de le découvrir, comme la garde des Sceaux de l'époque, Elisabeth Guigou, alors qu'en fait, ils avaient le CD-ROM depuis un an avant. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Et enfin, c'est voilà. Vous avez une réaction, Roger Sien?
Moi, si je t'ai bien suivi, je vais répondre réagir en disant que personne ne doit être au-dessus des lois. Mm-hmm. C'est pas parce qu'on a le bras long ou qu'on est issu d'une famille très riche, mm-hmm, qu'on doit se soustraire à la justice, quoi. Mm-hmm. La même justice pour tous. Mm-hmm. C'est ça ma réaction.
Pardon, est-ce qu'il y a une jurisprudence là-dessus ou pas? Français? Non.
Il y a une jurisprudence dans l'impunité, en fait. J'ai envie de dire, c'est. Et en fait, c'est tellement énorme. On pense que la pédophilie, c'est le fait de personnes malades qui sont détraquées dans leur tête, comme à Roubaix, on a eu l'affaire Francis Évrard. Mais en fait, apparemment, ce serait un privilège de classe, en fait, de gens de famille royale, des gens du pouvoir, des gens du monde d'entreprise, enfin, des gens qui ont les moyens, en fait. Ce serait une sorte d'élite de caste, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'horrible, associé avec des rituels. Un peu spéciaux, des rituels satanistes, tout ça. Et... Oui.
Oui, apparemment, ça t'a beaucoup choqué, ce documentaire. Et je pense que j'irai jeter un coup d'œil comme ça pour voir sur Internet. Mais ça doit pas être facile à regarder, si je puis dire.
Ce qui m'a choqué, c'est que moi, j'ai tendance, quand il y a un sujet qui m'intéresse, à chercher tout ce que je peux sur ce sujet par Internet, par les livres, par la bibliothèque de ma ville, enfin, des choses comme ça. Et là, en fait, j'ai découvert un moment tellement de documentaires, enfin, de journalistes, de gens qui en parlent, en fait, qui dénoncent les faits, qui font des enquêtes alternatives et même des enquêtes dans les médias. Quand on voit une cinquantaine de reportages, d'émissions sur ces sujets-là, en fait, il s'avère qu'on fait des liens, en fait, des choses qui se passent. En fait, on prend un peu de recul. Et en fait, apparemment, ce serait vraiment quelque chose. C'est quelque chose, en fait, qui. On nous dit que c'est des légendes urbaines, qu'il n'y a pas de rituel satanique, qu'il n'y a pas de pédocriminalité de réseau. C'est comme l'affaire Dutroux. L'affaire Dutroux, ce que j'ai compris dans mes recherches, c'est qu'en fait, à un moment, il est accusé au procès avec Jean-Michel Nioul, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un mec qui ferait partie d'un réseau de notables, donc ils auraient l'ambition, enfin, de violer des petits enfants, enfin, des trucs comme ça.
Déjà, on disait Dutroux recruté pour les notables.
Et moi, pour terminer, il faut quand même méfier des rumeurs dans le sens où il y a un homme politique, pourtant je suis pas de droite, qui était maire de Toulouse, Dominique Bitoudis, qu'on a traîné dans la boue, et il était pour rien. Il faut le rappeler quand même, quoi. Avant de t'accuser, il faut quand même des preuves, quoi. Voilà.
Il était pour rien, mais il y a quand même l'histoire du juge Roche, le juge Pierre Roche, qui a été assassiné donc dans le cadre de cette affaire à Toulouse, l'affaire Allègre-Baudis. Et il faut savoir que c'est les enfants du juge Roche, donc je sais plus comment ils s'appellent, mais ils ont témoigné sur Internet. En ce moment, il y a une vidéo de 50 minutes qui est depuis des années sur Internet, où ils expliquent en fait. Ils expliquent leur point de vue des choses, comme quoi leur père aurait été assassiné parce qu'il voulait balancer le réseau Baudis Allègre. Donc, moi, ça m'a traumatisé. Donc, tout ce que j'ai dit là, si vous êtes curieux, allez voir sur Internet. J'en ai dit assez. Et je passe la parole. Et merci de m'avoir écouté.
Merci, Johan.
Bon, Malika, c'est à toi pour la météo.
D'accord.
Vas-y.
Chère auditrice et auditeur. de l'émission des Entonnoirs. Merci de votre écoute et votre bulletin météo pour le département du Nord, pour le vendredi 22 février. Pour le week-end et pour la semaine prochaine, la météo s'annonce simple et à comprendre. Les prochains jours seront nuageux, ensoleillés. Il y aura parfois un peu de vent, mais pas de rafales à craindre. On n'attend plus de pluie ni de chute de neige. Les températures seront proches, le 1er et 3 degrés le matin, s'élèveront progressivement le 3 et le 7 degrés l'après-midi. Nous nous dirigeons tout doucement vers le printemps, sauf en cas de retour brutal du froid, mais qui n'est pas envisagé pour l'instant. Par appel et pour donner un peu d'énergie à tous, après cet hiver parfois très rude, le printemps arrivera cette année le mercredi 20 mars, c'est-à-dire dans 30 jours.
Indien.
En plus, merci en plus. Malika.
Et donc on va terminer par la musique de Fredo. Fredo, ta musique hein.
Alors maintenant une pause musicale de Fred Tchaïkovski.
Tchaïkovski.
Merci Gilbert. Bon, en fait c'est pas tout à fait Tchaïkovski. Je vous propose de déguster une superbe interprétation du célébrissime Vol du Bourdon de Nicolas Rimsky-Korsakov par l'orchestre de philharmonique de Slovénie.
C'est parti, balance Guilhem. On vous souhaite une excellente semaine.
Au revoir. Salut, bye bye, bonne semaine. À la prochaine.
Bon week-end, salut.
Bon boutinage.
Et bonne à semaine. Bientôt les Entonnoirs avec Micro Standard à Morlaix.
Vous savez les Entonnoirs qu'on trouve dans les tornades.
C'est les Entonnoirs parce qu'ils donnent plus fou dans la tête et ça gratte des pots sur ma tête. Et je viens plus fou, c'est ça les Entonnoirs.